Comment dirait des nouvelles est à Abidjan, au Massa.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette seconde émission enregistrée en Côte d'Ivoire lors de la 13e édition du Massa, le marché des arts et des spectacles d'Abidjan. Une émission construite autour de la parole des femmes aujourd'hui, avec les mots et la voix de la chanteuse burkinabé Nabaloum, qui est née ici à Abidjan, avec la rumba des Léopards du Kin Orchestra, un groupe 100% féminin venu de Kinshasa, avec la comédienne et metteuse en scène béninoise Sibeline de Souza, qui fait résonner les voix des victimes des violences conjugales et paternelles, et puis avec Odile Sankara, la grande dame du théâtre burkinabé, dont le spectacle Et que ton règne arrive met en scène les questionnements des femmes africaines à travers l'écriture tranchante de Léonora Miano, avec Kouami Vignon qui met en scène avec la compagnie Azal Group Paroles de femmes. Voilà le programme et vous m'en direz des nouvelles.
On dit que le chiffre de la femme, c'est 4.
4 comme les 4 points cardinaux.
4 comme les 4 membres.
4 comme les 4 côtés d'un carré.
4 comme les 4 éléments de la vie.
Le feu.
L'eau.
L'air.
Et la terre.
Bonjour, Camille Vignon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le metteur en scène du spectacle Paroles de femmes, un spectacle de contes avec trois conteuses sur scène qui sont conteuses, comédiennes, chanteuses, un peu danseuses. Il y a une musicienne aussi. Et toutes trois, elles s'emparent et elles partagent avec le public par-delà le quatrième mur de ces fameuses paroles de femmes. À partir de quels matériaux ce spectacle a-t-il été construit ?
À partir de l'envie de prendre la parole et de faire découvrir le conte sous toutes ses formes. Quand on parle des contes, on oublie souvent que ce sont les traditions orales. Et dans les traditions orales, il y a les contes, il y a les chants, il y a de la danse, et il y a un peu de tout ça. Et donc c'est un peu tout ça qu'on voulait mettre un peu en valeur. Mais si je peux dire quelque chose, peut-être la première chose, le premier matériau qu'on a voulu utiliser, c'est surtout ces femmes-là. C'est comédienne.
Donc chaque comédienne a apporté son propre vécu, mais aussi les histoires dont leurs familles finalement sont porteuses.
Exactement.
Alors les histoires ressemblent à des contes, à des fables. Il y a des femmes, mais il y a aussi des animaux. Alors il a fallu tricoter un spectacle avec tous ces éléments-là, parce que c'est vraiment très très riche, avec des pleins et des déliés, des moments de textes parlés et de chants, des moments joyeux et festifs, des moments un peu plus émouvants, un peu plus tristes. Parfois, c'est une alchimie complexe. Comment on fait prendre la mayonnaise justement entre ces différents éléments-là qui peuvent sembler un peu contradictoires à assembler?
Déjà, on s'inspire de la vie. Tout court, parce que la vie, c'est un peu un mélange de tout ça. Et après, moi, dans ma mise en scène, je vais beaucoup à l'intuition, et c'est aussi ce que elle, en tant que conteuse, en tant que comédienne, elle me donne sur le plateau. C'est l'ensemble de tout ça que je prends et que je mélange.
Donc c'est vraiment un travail de plateau, c'est-à-dire que vous partez des différents essais et ensuite vous avancez petit à petit, vous gommez, vous ajoutez, vous retranchez.
Tout à fait. On n'est pas... Je vais dire, on avait les contes. On avait plus que ça en termes d'histoire. Et après, on a regardé aussi pour voir qu'est-ce qui pourrait coller. Et donc, avec les énergies qu'on avait sur le plateau, progressivement, comme un tisserand. Donc, on a tissé tout ça en prenant un peu de... Moi, je pars sur le principe que je ne peux pas les séparer des histoires. Et c'est ce qui a nourri un peu tout ça, en fait.
Avec un souci d'unification de la langue, de la parole, ou au contraire une volonté de diversifier le discours? C'est plutôt un patchwork ou plutôt au contraire quelque chose d'uni?
C'est un patchwork, c'est vrai. On a des histoires qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres. Il fallait trouver un fil conducteur. Et après, le fil conducteur s'impose tout seul. Par elle-même leur histoire, par elle-même le fait qu'elle soit à la fois comédienne, conteuse, musicienne et danseuse. Donc c'est un peu la base du travail. C'est sur ça qu'on s'est beaucoup inspiré, en fait.
Mmh.
es un abîme, un mystère. Et celui qui croit te connaître est trois fois insensé.
Femme, tu es un abîme, un mystère. Et celui qui croit te connaître est trois fois insensé. Il est dit que partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même.
Il est dit que là où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même.
Chez nous, on dit que
le cœur d'une femme
est comme un océan
Parfois, le chant commence solo et devient ensuite chorale, Coami Vignon. Comment construire une complicité de plateau? J'allais presque dire une sororité de plateau.
C'est un travail qui se construit tout doucement. Mais j'ai eu la chance que ces comédiennes, ces conteuses se connaissaient aussi. Donc, ce n'était pas leur première collaboration. Donc, je suis parti aussi sur cette base-là. Et puis, voilà, et puis ça s'est fait vraiment... presque tout seul, quoi.
Et après, il faut aussi distribuer la parole. Ça, c'est pas facile de dire, bah là, c'est toi qui vas commencer, ensuite tu vas reprendre, ensuite toi, tu vas à nouveau surenchérir sur ce que l'autre dit. Ça doit être une fluidité parfaite.
Trouver un certain équilibre. Et il n'est pas toujours évident. Donc, c'est quelque chose, c'est un travail... je dirais, ce spectacle, elles le joueront trois fois, quatre fois... Chaque fois, on va peut-être rééquilibrer quelque chose. C'est une recherche perpétuelle.
Voilà. Alors, les trois artistes jouent avec tout leur corps, hein, leurs mains, leurs pieds, leurs bras, leurs yeux. Il y en a une qui joue des percussions ou de la flûte à bec. Toutes les trois ont une formation pluridisciplinaire ?
Elles ont toutes les trois, en tout cas, une base théâtrale. C'est aussi ça, la force de ce spectacle. C'est que moi-même, à la base, je suis comédien-conteur et c'est quelque chose que je revendique. Et je me dis que quand tu es conteur et que tu as aussi cette formation théâtrale, c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à cette envie aussi de montrer le conte, mais sous toute sa forme, donc le chant, la danse, etc., on s'est donné ça comme objectif à ne pas
oublier, à garder toujours en
voilà,
tête.
Voilà, garder toujours en tête. Pour que ça soit toujours comme ça, quoi.
Et puis, ce qui est très fort aussi dans l'art du conte, c'est cette capacité à soutenir et à retenir et à susciter en permanence l'attention du public. On a envie de connaître la phrase suivante, en quelque sorte. Comment on fait justement pour tenir comme ça un public quand on est conteur ?
C'est de la pratique.
C'est ça passe travail. Par le regard, ça passe par les mots, ça passe par le rythme de la phrase ?
Ça passe par tout ça, le rythme, les silences, des fois... et puis bon voilà, c'est plusieurs contes et donc à des moments il faut savoir trouver quelque chose pour ramener le public. On a les cris, les petits cris, les petits cris de guerre qu'on lance pour maintenir le public dans le spectacle. Voilà.
L'on dit que l'homme est le brouillon de la femme. Bah normal. Pour avoir un chef d'œuvre, on a toujours besoin d'un brouillon.
Ça, c'est vrai. Attends, donc, tu veux dire que j'attends le brouillon de ma vie.
Toi.
Qu'il vienne admirer son chef d'œuvre aussi beau.
Voilà, c'est vraiment l'un des moments que j'ai préféré dans le spectacle. Moment plein d'humour et en même temps, à travers l'humour, on peut dire énormément de choses, hein, Coami Vignon. L'ambition du spectacle, c'est aussi, à travers les différentes histoires, de changer le regard du public sur les femmes ?
Tout à fait. le constat est clair. On a plein d'histoires. Je ne sais pas comment c'est dans, sur les autres continents, mais il y a beaucoup de contes africains où la femme est souvent cantonnée à des rôles de méchants. Et donc, on avait à cœur de montrer que la femme, elle peut être aussi une héroïne, qu'elle peut aussi être celle qui mène des combats, etc. Donc, c'était ça. Compter, c'est bien, mais c'est aussi des graines qu'on sème dans l'esprit des gens. Et c'est important que ce message soit porté.
Dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle. Kwame Vignon, vous êtes un homme qui mettait en scène un groupe de femmes à propos de contes sur les femmes. Est-ce que votre regard sur les femmes, votre regard à vous personnellement, a changé en travaillant sur ce spectacle ?
Est-ce que mon regard a changé ? Moi, je pense que c'est... Non, pas forcément. Moi, j'étais convaincu de certaines choses déjà. C'est pour ça aussi que je fais cette démarche-là. Donc, je trouve que c'est logique. Alors là, c'est des femmes, mais même moi, en tant que conteur, je trouve qu'il y a du sens à véhiculer ce type de message.
Merci beaucoup, Kwame Vignon. Parole de femme, très très beau spectacle de la compagnie ivoirienne Nassal Group. Merci.
Merci beaucoup.
Dos courbé, les mains et pieds écorchés, la sueur dans les yeux, interdiction de rêver. Du fleuve au champ, il n'y a pas de place pour étudier. Fouiller les papiers, c'est pas pour les filles. Vas-y bien, oh, ta carme. Vas-y bien, oh, ta chenge comme. Songi bien, oh, yamna nyame. Tirons la zamana, parmets-toi et tout ma douce. Les femmes mènent le monde au sommet. Sous d'autres cieux, les filles ont la chance d'abaisser. Sans se soucier, elles dessinent leur avenir comme rêver. Moi je n'ai pas ce droit-là. Je me résigne, résigne. Vas-y viga, oh, ta carme. Vas-y viga, oh, ta chenge comme. Songi viga, oh, yamna nyame. Tirons la zamana, parmets-toi et tout ma douce.
Nicolé Nabaloum, qui est elle aussi autour de la table du studio de VMDN installée au Palais de la Culture d'Abidjan. Alors vous êtes burkinabé, Nabaloum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes burkinabé, mais vous êtes né à Abidjan, je crois.
Oui, c'est ça.
Quelle commune ?
Kumasi.
Kumasi, alors c'est intéressant parce qu'on va aller tout à l'heure à Kumasi, qui est aussi un des lieux hein, de ce Massa 2024. Vous avez gardé un lien étroit avec la Côte d'Ivoire ?
Oui, bien sûr, parce que j'ai encore toute ma famille ici en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est l'appel du sang qui m'a mené au Burkina, aller faire de la musique que j'aime et à la manière dont j'ai envie. Voilà.
Alors c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on vous parle de musique, vous dites la musique que j'aime. C'est vraiment une histoire d'amour, la chanson et la musique pour vous, Nabaloum.
C'est clair parce que moi, je n'imagine pas ma vie sans la musique. Je me suis dit, si Dieu m'avait créé autrement que artiste, je me serais beaucoup ennuyée quand même.
Mais comment est-ce que vous avez découvert le pouvoir de la musique et le pouvoir de cette voix qu'on a entendue là ?
Franchement, parce que personne ne comprend dans ma famille, puisque j'ai pas eu d'exemple voilà, dans ma famille, qui personne ne fait la musique là-bas. Et ma mère me raconte que même quand j'avais 3 ans environ, j'ai été malade et sur le lit d'hôpital, j'avais pas beaucoup de force, mais je chantais, je fredonnais des chansons que, bon, des chansons qui étaient à la mode ici en Côte d'Ivoire à l'époque. Donc, je sais pas, je suppose que je suis née avec. Et depuis toujours, je sais que je chante. Et j'ai osé en faire un métier, parce que ça n'a pas été facile de passer de l'université à la carrière de chanteuse. Donc voilà, c'est, je suis née avec, tout simplement.
Bon, mais cette voix afro-sol, là, c'est inné, ou bien vous l'avez travaillée, cette voix ?
C'est inné, parce qu'on me disait toujours que j'ai une grosse voix. Et donc, au départ, c'est vrai que je ne l'aimais pas beaucoup. Et avec le temps, j'ai compris que c'était en fait la puissance qu'il fallait pouvoir maîtriser et utiliser comme moi je le souhaitais. Donc, ça a demandé du travail pour la perfectionner. Donc, c'est un mélange de travail et puis voilà, dedans.
Alors, votre voix, vous l'accompagnez d'une couleur musicale africaine et internationale en même temps. En fait, il n'y a pas vraiment de frontières dans les styles quand on vous écoute.
C'est ça, parce que moi, je veux que ma musique ne soit pas limitée. Je ne veux pas choisir un style propre au Burkina, par exemple, seulement. Je veux pouvoir utiliser ma langue maternelle, qui est le moré, et pouvoir toucher tout le monde au-delà des frontières. Donc, c'est vraiment un mélange. C'est pour ça que j'ai choisi de faire de l'afro-soul, qui est un mélange de la soul, un peu plus pop aussi, hein, aujourd'hui, et de la musique afro.
Mais vous chantez en moré, en malinké, en français, en anglais aussi, un peu ?
Ouais, un peu, ouais, en anglais aussi.
Qu'est-ce qui vous fait choisir l'une ou l'autre langue ?
Moi, quand la musique vient, je pense, elle vient avec la langue. Quand j'ai des mélodies, je sais exactement dans quelle langue j'ai envie de faire cette mélodie-là et tout. Et j'ai choisi presque toutes ces langues-là parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, moi, je parlais le français et le malinké. Arrivé au Burkina, il y a eu le moré qui s'est rajouté. Et pour pouvoir parler à d'autres peuples au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, du Burkina et tout, il fallait rajouter un peu d'anglais aussi.
Et vous parlez aux différents peuples et vous parlez surtout, au fond, à la jeunesse africaine. Vous parlez d'elle aussi,
hein,
de cette jeunesse africaine, de la vie quotidienne et en particulier de la vie des femmes. C'est de votre propre expérience ou de l'expérience de votre entourage que naît une chanson ?
Par exemple, la chanson L'Écolé qu'on vient d'écouter, c'est un peu cette petite fille-là que moi je vois au Burkina, qui au lieu d'être en cours, est souvent en train de faire des travaux ménagers ou est en train de faire des travaux champêtres, qui est imposé un avenir qu'elle n'aurait pas forcément souhaité si elle avait eu le choix. Donc L'Écolé, c'est me mettre un peu dans la peau de cette fille-là et dire à mes parents, s'il vous plaît, donnez-moi la chance d'aller à l'école et vous verrez. Donc j'essaie de toucher à des thèmes comme ça que voilà, les concernés n'arrivent pas à aborder, voilà, parce que c'est tabou, parce que voilà, ça se fait pas dans notre culture et tout. Donc L'Écolé et autres chansons qui, par exemple Pagnintam, où je parle des problèmes, mais vraiment des femmes, du vécu aussi, et de ce que j'ai pu voir dans mon entourage.
Être une femme aujourd'hui en Afrique, c'est vivre avec des injonctions.
Mais on est en train de travailler à changer cela. On veut que toute la force que Dieu a mise en nous soit reconnue. On veut pouvoir l'exploiter. On veut se faire valoir. On veut prendre la place qui est la nôtre. Et je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en train d'être faites pour y arriver.
Et vous êtes une sorte de porte-parole de la jeunesse. C'est comme ça que vous vous considérez ? Vous avez cette prétention-là ?
J'essaye.
Oui. J'essaye. C'est une sacrée responsabilité.
Ouais, parce que c'est lourd, hein. Il y a tellement de problématiques à gérer en tant que jeune africain. Et surtout en tant que femme. Donc, moi, je ne dirais pas que je suis une porte-parole. J'essaye d'être, parce que je n'arrive pas à aborder tous les thèmes. Il y en a tellement. Je fais au mieux, en tout cas.
Bon, est-ce que vous êtes une chanteuse féministe, Nabalou ?
Je ne dirais pas que je suis féministe.
Ah, pourquoi ? Vous vous méfiez de ce mot ?
Je ne me méfie pas. Je me dis aussi que c'est un peu ce qu'on en fait qui me dérange un peu. Moi, je veux une société où la femme est heureuse, libre, épanouie, tout simplement. Maintenant, je ne suis pas une guerrière et tout. Non. Je suis juste, j'essaie de véhiculer de l'amour, de l'espoir et donner beaucoup de force à ceux qui en ont besoin.
Oui, je crois, et on a pu se rendre compte depuis le début de cet entretien, vous êtes aussi très croyante. Dieu, c'est un vrai moteur artistique aussi, Nabaloum ?
Ouais, moi je me dis que je n'ai pas forcément mérité d'avoir la chance de pouvoir faire des scènes, de pouvoir parler de moi, de ce que j'aime partout dans le monde. Il a fallu que voilà, quelqu'un, au-delà de ce que je peux voir, me donne une voix et une mission. Donc moi, je mets Dieu à sa place, voilà, supérieure là, quoi, simplement.
Qu'est-ce que vous attendez, Nabaloum, de rendez-vous comme le Massa?
J'attends de pouvoir tourner partout dans le monde, de montrer au monde entier ce qui se passe au Burkina, parce que malheureusement, notre pays n'est pas beaucoup, valorisé au plan culturel. Et moi, j'ai envie d'être l'exception et de pouvoir ouvrir la porte à des filles, à des jeunes femmes qui rêvent là-bas au Burkina de faire des grandes choses et d'affronter des scènes que voilà, peut-être des peuples comme le Mali ou les peuples comme le Burkina arrivent à faire. Nous, on n'arrive pas encore à faire l'Olympia et tout ça. Je trouve que ce n'est pas juste. Mais chaque chose, étape par étape, je pense qu'on va y arriver.
Bon, quand vous ferez l'Olympia, vous viendrez à Paris dans le studio de VMDN, c'est
promis ? Avec plaisir.
Merci. Merci beaucoup, Nabaloum.
Merci à RFI.
Que nos voix résonnent, c'est le spectacle que vous avez présenté ici au Massa. Sibéline de Souza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, metteuse en scène béninoise. Que nos voix résonnent, c'est une histoire très personnelle et même intime, inspirée d'une expérience très douloureuse. Dès le début du spectacle, la musique impose un caractère très oppressant qui accompagne les gestes que vous faites, des gestes très saccadés, presque mécaniques. Il y a un côté à la fois très, très lourd, très tellurique, avec des chutes, des moments où votre corps prend des apparences de pantins désarticulés. On sent beaucoup de tension, beaucoup de violence. Le spectacle s'appelle « Que nos voix, VOX, résonnent », mais il était évident que c'était plus par le corps que par les mots qu'il fallait commencer le spectacle.
Oui, pour moi c'était important parce que je me suis dit, on parle tellement qu'à un moment donné, on ne nous écoute pas. Donc j'ai pensé aller parler autrement. Et j'ai dit, ouais, le corps est là, donc je me suis dit, il était important de commencer autrement les choses. Parce qu'à un moment donné, quand on ne remarque pas le changement, on doit se poser des questions. Ou bien c'est la manière, ou c'est, on se pose plusieurs questions. Donc moi, je me suis trouvé la réponse de commencer autrement les choses, donc et par le corps.
La comédienne et metteuse en scène que vous êtes est aussi danseuse et chorégraphe?
Bon, j'aime pas trop m'affirmer en tant que chorégraphe, danseuse, mais j'ai des connaissances que j'aime exploiter. Parce que j'ai fait du théâtre physique. J'ai eu une formation de master de théâtre physique en Suisse. Et donc, pour moi, c'était une manière de m'exprimer autrement. J'ai appris à faire ça. Donc, voilà.
Comment vous avez trouvé ces gestes, ces mouvements-là au tout début du spectacle?
Voilà. D'habitude, on commence nos créations à partir d'un test. Et cette fois-ci, le processus était différent. Je me suis inspirée de mes émotions personnelles, de ce qui était caché à l'intérieur de moi pour pouvoir toucher quelque chose. Et c'est comme ça ces mouvements sont venus, en pensant à mes situations, à ce que j'ai vécu, parce que je voulais vraiment pour cette création une partie de moi sur scène. Je voulais avoir une partie de moi sur scène. Et c'est ça qui est venu automatiquement. C'est comme des émotions refoulées, du moins, qui surgissent à un moment donné. Donc c'est là, c'est à partir de ça, je me disais comment je renvoie tout ce qui est dans ma tête à travers le corps. Et c'est là, tout a été créé.
Et il faut attendre une dizaine de minutes pour entendre vos premiers mots.
Je brise. Je brise dans le silence. Je brise le silence qui m'a brisé. Je me suis retrouvée dans un monde qu'on ne peut décrire, qu'on ne peut imaginer. Une vie timbrée d'une noirceur qu'on ne peut dépasser. C'est si injuste. Injuste de faire vivre cela à un enfant. Voir sa mère être battue comme une chienne par son mari, mon père. J'ai vu mon père traumatiser ma mère. Je l'ai vu la défigurer, la démaquiller avec des tessons de bouteille. la traiter comme une moins que rien en public. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où il a jeté ses affaires dehors. Le nombre de fois où il l'a traité comme une malpropre. Je l'ai vu. J'ai vu ma mère. J'ai entendu ma mère. Je l'ai entendu crier, puis se taire. Crier, puis se taire.
Sibeline de Souza, à quel moment vous vous êtes dit que ce calvaire était matière à spectacle, matière à partage avec le public?
Dans un premier temps, pour moi, le théâtre aussi est comme une thérapie. Et il était important pour moi de fermer cette page et d'évoluer, parce que c'est des blocages d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, en tant qu'artiste, je me disais que j'ai besoin de m'ouvrir. C'est à partir de ce moment, parce que je connais mes blocages, donc je me suis dit qu'il était important de partager. Et ça pouvait aider d'autres femmes comme moi à briser la barrière et à évoluer, parce que c'est une barrière qui est là constamment et puis ça nous bloque.
Donc « Que nos voix résonnent », le titre du spectacle, c'est une manière de dire on a eu une envie de crier, il faut
oui,
que ça sorte.
Il faut que ça sorte, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on s'ouvre, il faut arrêter cette solitude intérieure.
Mais en mettre des mots sur le traumatisme, ça vous a demandé un vrai effort ou bien au contraire les mots vous sont venus comme ça, comme un flot irrépressible?
Non, ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai pris 6 mois pour faire sortir ce spectacle. Ça a pris beaucoup de temps, c'était pas facile. Parce qu'à des moments donnés, je me disais que je n'allais pas y arriver, parce que c'est une histoire personnelle. Et ce n'était pas facile d'arriver à le mettre sur la scène, parce qu'à des moments donnés, il y a les émotions qui prennent vraiment la place. Mais j'ai pris le temps qu'il faut, j'ai essayé de faire les choses étape par étape. D'abord le corps, et après les mots, et après la lumière, la création, lumière autour. Ça n'a pas été facile. Mais ça a été un plaisir parce que chaque fois quand je joue ce spectacle, je me sens plus légère.
Mais on vous a aidé à accoucher des mots ou c'est un travail que vous avez mené vraiment toute seule, face à vous-même?
Non, je suis seule sur scène, c'est vrai, mais j'ai une équipe derrière. Le test, je l'ai écrit, mais c'est une co-écriture. J'ai demandé à Hermine Yolo, une Camerounaise, de m'aider à finaliser le test. Donc, on a finalisé le test ensemble. La musique a été créée par un Français, Jean-Pierre Rigal, appelé Pitch. Et j'ai eu un regard extérieur, une Belge, Émilie Mahin, celle qui m'a aidée, et un scénographe béninois, Michael Tordego.
Alors, on entend votre voix, les voix des victimes, on entend aussi les voix des hommes.
Oui.
Donc, les voix des bourreaux, pourquoi vous avez souhaité leur donner voix au chapitre?
Dans le processus de la création, il y a eu des moments où on faisait des feedbacks. Et il y a l'un de mes formateurs qui a dit, mais pourquoi on n'écoute pas les bourreaux? Pourquoi on ne donne pas la voix à ceux qui commettent ces actes? Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Cela, ça fera que tout le monde est interpellé dans cette création. Donc, en voyant ce spectacle, tout le monde est interpellé et ça peut... Parce que les actes, ce n'est pas une seule personne, c'est deux. Donc, tout le monde trouvera sa place dans cette création. C'est pour ça que j'ai dit, OK, j'ai considéré ces points de vue. J'ai dit, voilà, ça peut aider à d'autres personnes, les bourreaux, à se poser des questions. Et c'est important de se poser des questions quand on finit un spectacle. Quand on finit de regarder un spectacle, on doit se poser des questions et se retrouver à travers. Donc, pour moi, c'était aussi bien d'aller sur ce chemin et de laisser la parole à ces hommes qui commettent ces horribles actes.
Avoir le courage, avoir l'audace de s'approcher, de faire, de ne pas.
Sibeline de Souza, c'est la femme phénix hein, qui renaît de ses cendres, de son malheur, une femme vainqueur au final, hein, qui apparaît dans la deuxième partie du spectacle, en robe rouge, souriante, le poing levé, et qui montre sur l'écran en fond de scène des images en gros plan de sexe féminin. Vous vous êtes posé la question, vous avez hésité à présenter des images aussi explicites sur la scène ?
Pour moi, c'est aussi une manière de s'affirmer. Parce que toutes ces vulves, c'est des vulves violées, c'est des vulves des femmes qui ont été violées, qui ont subi des violences. Et pour moi personnellement, ça n'a pas été difficile. Mais c'est après, c'est souvent le regard du spectateur, surtout des hommes en griffe, qui se sentent un peu menacés. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'était pas l'idée. Et l'idée, c'est de vraiment aller toucher une réalité. Et pour moi, c'était important de montrer, de ne pas être dans du symbolique, mais d'aller dans la réalité. Et cette réalité, c'est comme on le dit, la vérité, elle est amère. Donc, c'était souvent pour les hommes, c'est comme des affronts, en fait.
Que nos voix oui. résonnent. Merci voilà. beaucoup, Sibeline de Souza,
Merci
d'être
beaucoup.
Venue nous voir. Allez, comme promis, on va à présent faire une escale à Koumassi, une des communes d'Abidjan où le Massa a installé place Inch'Allah, un grand podium pour porter la musique dans le quartier. C'est là que nous avons rencontré la bassiste d'une formation 100% féminine, 12 chanteuses et musiciennes congolaises réunies au sein du Kin Orchestra.
Jubas Kadiela, la chef-tête du groupe Kin Orchestra. J'avais eu un appel d'un grand homme de notre pays, un bassiste aussi, l'ancien bassiste de notre musicien, Béa Sonam, Pépé Calé. Et quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il y a un groupe féminin qui cherche une bassiste. Et quand ils m'ont dit ça, je suis intéressée, je suis allée pour travailler avec eux. C'est Charlie Maïwan qui est le fondateur du groupe. Il avait voulu juste valoriser les talents des femmes congolaises. La rumba, c'est notre source depuis les ancêtres. On fait l'effort d'associer rumba et d'autres styles, d'autres pays aussi, parce qu'il y a aussi des folk, d'autres tribus, parce que nous avons 450 ethnies, 450 tribus dans notre pays. Donc on fait l'effort de faire la fusion. On lance le message à toutes les femmes, toutes les filles, qui ont des talents, qui ont des potentialités. Donc, on veut juste dire qu'utilisez ce que vous avez pour appeler ce que vous n'avez pas. Donc, tu peux utiliser même les talents de jouer. Peut-être aujourd'hui, tu peux jouer au quartier, dans la cité, mais demain, tu joueras dans un grand stade, peut-être dans notre pays. Par exemple, on est venu ici à Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait utilisé ce qu'on a comme potentialité, comme talent, comme don. Donc, ce qu'on peut dire dans notre message là, qu'il ne faut pas se minimiser. Il faut toujours se croire à soi-même. Ouais, il faut toujours oser, avoir la volonté ou la force, le courage d'oser toujours. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu as comme potentialité, soit tu tresses les cheveux, tu as la potentialité de vendre, même de faire des commerces. Même tu peux conduire l'avion en pilote, il faut toujours oser. Rien n'est possible pour les femmes.
Kin Orchestra dans VMDN sur RFI, c'était jeudi soir à Koumassi, place Inch'Allah, et la cheftaine du groupe nous confiait qu'il espérait se produire très bientôt à Paris. On suivra ça dans VMDN. Sankara.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Le spectacle que vous avez présenté ici à Abidjan et que Mon règne arrive est une commande que vous avez passée à l'écrivaine franco-camerounaise Léonora Miano. La commande, c'était de parler de la femme africaine.
La commande, oui, c'était, j'avais demandé, dans, en tout cas la vision pour moi, c'était la question liée à l'éducation et à la transmission. Et naturellement, c'est les femmes qui peuvent porter cette question-là.
Pourquoi Léonora Miano? Qu'est-ce qui vous intéresse dans son écriture, dont on parle souvent d'ailleurs dans cette émission? C'est une écrivaine qui a des mots extrêmement forts.
Oui. Ce que j'aime dans son écriture, d'abord, pour moi, c'est l'icône de l'écriture contemporaine aujourd'hui. Mais elle n'est pas superficielle. Elle descend dans des strates. Elle a une dimension même, je dirais, spirituelle dans son écriture. Et donc, c'est pas... Il y a de la pensée, voilà. Et c'est une pensée en mouvement. Et c'est important.
Et puis, il y a la langue aussi. Et
il y a la langue.
C'est une langue extrêmement crue, extrêmement directe. Une langue qui ne peut pas laisser indifférent.
Exactement. Moi, venant du théâtre, je suis comédienne à la base. Et je suis toujours comédienne. Et le rapport à la langue est important au théâtre.
Alors, sur scène, il y a un plateau coupé en deux avec trois personnages. Côté jardin, il y a la maison Dei Topé, qui est une intellectuelle, une professeure spécialiste de l'histoire des femmes africaines. Elle a été invitée à un colloque en Europe pour parler de la sororité planétaire. Hein, c'est comme ça qu'on lui a présenté les choses. Ce qui l'amuse et l'agace un peu en même temps. Hein. Elle n'a pas envie de servir en fait d'alibi africain à une conférence en Europe et elle ne veut pas y aller à n'importe quel prix.
On voit d'ici l'arnaque de cette sororité planétaire qui entend faire l'impasse sur nos vécus concrets. Jusqu'à l'heure où nous parlons, jamais le destin des femmes ne fut séparé de celui des hommes. Il n'est pas question de faire triompher l'énergie féminine qui n'est pas le sexe féminin. Il ne s'agit pas encore de penser les plaies de l'humanité. Non. La fraternité issue de la sororité n'est pas à l'ordre du jour. Mon intention est de décliner poliment. Quel que soit le sujet, l'heure est venue de dire l'Afrique de l'intérieur, et pour elle-même. Nous l'avons trop parlé du dehors, et pour plaire à d'autres. Divertir, rassurer, expliquer à qui ne cesse de méconnaître, pour nous faire aimer, nous croire aimer. Finir ainsi par trouver en nous quelque chose à aimer. Nous n'avons pas de haine, mais n'avons plus le temps à perdre.
Et côté cour, les deux autres personnages, Théodoré, plus jeune, plus moderne, venu d'un milieu moins favorisé, et son amant, Unchu, barman dans un établissement du coin, et la jeune femme ne s'en laisse pas compter non plus.
Il a un petit job au futur choc, un bar fréquenté. Ça ne doit pas rapporter beaucoup, mais il ne demande pas d'argent pour coucher. Enfin, je ne peux pas me prendre la tête avec ça. Le gars sait faire ce qu'on attend de lui. Pour le reste, difficile d'envisager quoi que ce soit. Cet homme incarne la défaite de ses congénères. Les seuls en ce monde à ne savoir que faire de leur terre ancestrale. Les seuls à ne gouverner qu'en apparence. Pas la peine d'entrer dans les détails. Nous leur avons accordé assez de temps. Les femmes prendront leur place à présent. Et il ne sera plus question de mélanger le fragile égo de ces messieurs. Notre règne arrive. Et nous ferons voir au monde de la puissance héritée de nos mères.
Et elle monte sur un tabouret conquérante en levant le poing. Elle fait appel à l'histoire, aux ancêtres, avant de se moquer de l'homme africain qui, dit-elle, sont les femmes de tous les autres. On a donc deux femmes fortes dans leurs convictions, convictions solidement ancrées, mais... Au départ, deux positions extrêmement éloignées.
Tout à fait. Et je voulais dans la commande aussi deux femmes fortes. Je trouve que le théâtre contemporain manque de figures féminines fortes. Voilà, on trouve dans le classique, mais dans le contemporain, il en manque. Donc je voulais aussi l'incarnation de femmes fortes sur le plateau. Et bien sûr, deux personnages différents, tout à fait normal qu'on soit dans le contemporain et qu'on soit aussi une sorte de garant moral de notre société, que sont les femmes que nous avons connues en Afrique dans l'histoire. Et aujourd'hui, on a encore quelques-unes, comme Itopé, qui pour moi, c'est l'autrice aussi quelque part.
Ah, c'est voilà. Léonora Miano aussi.
On la retrouve un peu dans ce personnage.
Oui, très clairement.
Bien sûr, clairement.
Très clairement. Ouais. Donc on a deux façons au départ donc, d'annoncer, d'entrevoir les contours de ce règne du féminin hein, auquel les deux femmes aspirent et subséquemment deux façons aussi différentes d'envisager leur rapport aux hommes. Pourtant, toutes deux sont persuadées que, vous le disiez à l'instant, hein, Odile Sankara, sont persuadées que les femmes africaines peuvent changer l'histoire du continent, peut-être même davantage encore que l'histoire du continent. Ces deux versions du féminisme-là, elles s'opposent ou elles se complètent pour vous ?
Mais on peut dire qu'elles s'opposent dans le sens où la jeune contemporaine, elle n'est plus aussi dans des contradictions. Et qu'aujourd'hui, on est peut-être aussi pris dans des contradictions, dans nos luttes féministes. Mais elle se complète dans ce sens que la jeune, quand même, elle lui dit « J'ai lu votre livre et ça m'a transformée ». C'est-à-dire que Éthiopée est, comme je dis, garant moral. Et elle est, l'autrice me l'a dit, elle l'a vue comme une sorte de guérisseuse moderne, sens propre et figuré. C'est-à-dire que là, vous voyez, elle a des plantes, donc elle connaît les vertus. En tout cas, elle est dans le monde spirituel et aussi dans le monde moderne.
Voilà, donc la transmission vraiment à tous les étages. Oui. Et les deux personnages donc, qui au départ sont vraiment très séparés, à la fois intellectuellement, moralement et physiquement, vont finir par se rencontrer sur le plateau. Mais auparavant, l'une va s'insinuer dans les pensées de l'autre. Alors, on ne va pas tout raconter exactement la scène, Odile Sankara, mais comment est-ce que la metteuse en scène que vous êtes nous fait entrer dans le fort intérieur du personnage de Théodorie ?
C'est aussi la magie du théâtre. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est topé, comme on le dit, qui on voit dans cette scène-là sa dimension spirituelle et sa capacité de porter la communauté féminine. Et elle le porte aussi bien intellectuellement que traditionnellement. Et c'est en cela que le rôle de l'ancêtre, pour moi, est un rôle presque féerique. C'est comme dans les contes de fées. Et un personnage arrive et il n'est pas... On sent que ce n'est pas un personnage réel. C'est un personnage imaginaire, mais un personnage plus ancré. Et là, moi, je voulais l'ancrage aussi, parce qu'on manque d'ancrage aujourd'hui. Et on est hors sol, comme on dit, et nos jeunes filles sont perdues, et il y a TikTok qui les éduque. Et donc, pour moi, ce personnage est le fondement, et aujourd'hui, des valeurs qu'elle peut partager avec ses sœurs, les jeunes notamment. Et donc le côté magique qui se trouve dans l'écriture et dans le personnage.
Oui, c'est vrai que c'est un moment très très fort hein, dans la pièce lorsqu'elle entre en scène et y toper. Alors il faut dire Odile Sankara que votre plateau est très plastique, hein, que les scènes s'enchaînent extrêmement rapidement. Hein, on éteint les lumières d'un côté du plateau, on les rallume de l'autre. Vous avez visiblement énormément travaillé la question du rythme. Ça c'est absolument essentiel, ça, pour souligner l'importance. C'est la force des mots ?
Complètement. C'est-à-dire que j'avais un texte, un très beau texte, qu'on ne rencontre pas au théâtre beaucoup. Moi-même, en tant que comédienne, je n'ai pas joué des textes comme ça. Et que je n'avais pas aussi de repères, parce que c'est de la pure littérature. C'est comme un livre qu'on ouvre sur le plateau. Alors, il fallait simplement trouver le cadre pour faire entendre le propos, parce que c'est le propos, moi, qui m'intéresse. Et c'est pour ça que mon scénographe, il a été vraiment extraordinaire. Tout de suite, il a vu les deux espaces et simplement, on pose les deux espaces et la pensée peut s'écrire dedans. Et c'est presque jouissif. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile parce que les comédiens, vous savez, on est habitué à faire des pirouettes sur le plateau. C'est-à-dire un comédien, quand il ne bouge pas, tu lui demandes deux secondes de silence, ça devient une montagne pour lui parce qu'il faut qu'il bouge. Il existe quand il bouge, alors que non. Et je dis, dans ce texte-là, on ne peut pas faire autrement que de se poser et de faire entendre. le propos.
Voilà, un petit mot du personnage masculin, donc Unchu d'Isangera, pour terminer. Ce n'est pas un rôle facile à jouer parce qu'il est en permanence sur la ligne de crête. Quoi. Il n'est pas très à l'aise entre ce qu'il dit, ce qu'il pense vraiment, ce que la société et son milieu social veulent à tout prix qu'il dise ou pas. Quel regard est-ce que vous portez sur ce personnage?
Ben, pour moi, c'est une marionnette et c'est l'homme de service dans ce spectacle-là. Il y a deux figures féminines qui prennent le plateau, qui ont le discours, la pensée, et ce mec, il est au service de ces deux femmes-là pour qu'on puisse écrire notre petite histoire. Et donc, lui aussi est paumé, hein, c'est un homme paumé, qui vit une vie de débauche parce qu'on ne le comprend pas. Pourtant, il est brillant, mais il est là, voilà, comme un pauvre type dans son bar, et les filles viennent, il les prend, il les choisit, et puis voilà. Mais c'est un personnage en même temps qui attire de la sympathie. On a tout de suite en emphase, en empathie avec lui, parce qu'on voit intérieurement toute l'humanité de ce garçon, de ce monsieur, et il a le savoir, hein, il lit beaucoup, il est intellectuellement brillant, mais seulement ça ne suffit pas. Et dans la vie, c'est ça aussi, et on n'est jamais assez heureux parce qu'il nous manque toujours quelque chose. Et lui, il manque vraiment, dans la relation humaine, il manque la relation. Il ne sait pas faire. Il est là.
Merci beaucoup, Odile Sankara, d'être venu nous voir.
Merci beaucoup à vous et merci de m'avoir invité.
Ah ouais, nous venons d'Haïti, vous savez déjà, de la Caraïbe. Check this. Here we go.
J'ai parti en sucette. C'est la même, dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête, un peu, est-ce que t'as capté? J'ai parti en sucette. C'est la même, dis-moi comment on va faire. Comment on va faire?
Et où est-ce? Que j'ai gâté, elle est fâchée, elle fait la tête, elle a pas dit son dernier mot. Attends, s'il te plaît, je vais m'expliquer, je me suis fait péter. Elle a dit entre nous, c'est mort. Et si je peux retrouver par la folle avec mes poches, j'ai laissé tous mes affaires et tout la soif à bien la porte. Et si mes ennemis viennent un jour frapper à ta porte, check ça a été direct. Moi dis, c'est qu'on va direct. Nous mixer la mec, on tire, reggae. Après ça, nous mettons hip-hop sous lit. Levez-moi nous si nous représentons pour Haïti. Encore, pour pas direct. Nous mixer la mec, on dit jargon. Mgaga, mgege, mgaga, mgege, mgugu, mgaga, oh, eh. J'aime tout bombarder.
Les Haïtiens de Drogue Xiani qui mixent des influences afro-pop, hip-hop également, des Caraïbes. Ils étaient en concert ce vendredi au Yelams dans le quartier de Trècheville, pas très loin du Palais de la Culture. Ainsi se termine la dernière de nos émissions enregistrées ici à Abidjan avec Baptiste Antoine et Pierre Plantier. Merci au Massa de nous avoir accueillis, à tous ceux qui de près ou de loin y ont participé. Demain, retour à Paris avec Marjorie Bertin qui recevra Léa Mamin-Chauvac. Elles nous conteront l'histoire des Sœurs Dardal, figure un peu oubliée des luttes féministes et antiracistes. À demain donc, et vous m'en direz des nouvelles.
Abidjan!